cet éclairage sur cette juxtaposition de droits, cette juxtaposition en fait arbitraire en même temps. C'est un phénomène qui n'est pas ni africain, ni latino-américain, ni asiatique. C'est un phénomène qui a déjà connu sa réalisation au cours d'autres périodes et dans d'autres espaces. Nadine Vivier nous parle tout de suite, parce que je vais lui donner la parole, de ce qu'on a appelé la tragédie des communaux en Europe. Et puis moi-même, je reviendrai, après qu'elle ait fait sa présentation, sur ce qu'on a appelé le premier processus colonial moderne entrepris par les Espagnols en Amérique. Mais je donne tout de suite la parole à Nadine.
Merci. Oui, ce que vous venez de montrer, c'est justement cette imposition par les Européens de la notion de propriété privée. Et alors, justement, ce sur quoi je voulais focaliser, pour remonter un petit peu dans le temps, c'est sur les propriétés collectives qui, en Europe occidentale, entre 1750 et 1850, ont été, l'objet d'une expropriation au profit des propriétés privées. Et ça a concerné des millions d'hectares, hein, donc c'est un mouvement très important, majeur. Et je crois que c'était la question que posait Pablo en introduction. Dans le cas des propriétés collectives, il faut renverser le titre qui a été donné à notre session pour en faire de l'accaparement à l'expropriation, du moins dans la plupart des cas. Il y avait très nettement une tendance à l'accaparement. Et c'est ce à quoi faisait allusion Pablo en parlant de la tragédie des communaux, parce que les libéraux qui triomphent avec les physiocrates et leurs successeurs partent du principe que les communaux, à partir du moment où c'est une propriété collective, ne peuvent rien donner de bien. Alors, ils montrent justement qu'il y a accaparement. Accaparement par un petit nombre, c'est un accaparement de jouissance. Souvent, ceux qui ont les bêtes, eh bien, utilisent les communaux à leur profit, et ceux qui n'ont rien, on dit que c'était le communal le bien du pauvre, mais ceux qui n'ont rien, ils n'en profitent quasiment pas. Mais il y avait aussi, bien sûr, les accaparements par les propriétaires alentours, ou ceux qui allaient défricher un bout. Alors, quand le propriétaire alentour fait son labour, il grignote un sillon une année, un deuxième sillon l'année d'après, etc. Et donc, les communaux avaient tendance à se réduire un petit peu, comme le chagrin. Mais je voudrais insister plutôt sur l'aspect expropriation. Alors, expropriation, c'est un terme assez délicat à employer ici. Nous allons voir, ce n'est pas tout à fait le bon terme. Disparition, ce n'est pas non plus le bon terme parce qu'ils ne disparaissent pas forcément. Vous savez qu'il en reste beaucoup en France. Je crois que le meilleur terme, là, ce serait les attaques contre les communaux dues à cette nouvelle idéologie qui fait que seule la propriété privée est valable. Quels sont les acteurs de ce processus de ces attaques, les promoteurs de ces attaques et ceux de la disparition plus ou moins des communes? Je ne peux pas vous donner une réponse globale pour l'Europe occidentale, donc je vais prendre trois exemples pour vous montrer la diversité des choses. Premier exemple, la Grande-Bretagne, très connue, et la Prusse, qui y ressemble beaucoup, donc la Prusse orientale avec les grands seigneurs. Les commons en Angleterre, sont la propriété du seigneur. Et en Grande-Bretagne, vous savez qu'il y a eu le grand phénomène des enclosures. Et là, pour faire ces enclosures, eh bien, il fallait que le seigneur et les deux tiers des habitants soient d'accord. Après quoi, ils avaient l'aval du Parlement. Quand l'enclosure était réalisée, eh bien, c'était au profit du lord, hein, qui obtenait l'essentiel des terres. Donc voilà un premier système. Deuxième exemple, l'Europe occidentale sous domination napoléonienne. Là, il y a eu de gros encouragements au partage des communaux qui appartenaient là aux communautés d'habitants. Et ce que l'on voulait, c'est que les communautés partagent entre tous les habitants pour que tout soit mis en culture. Ou alors que ce soit vendu par petits lots. Hein, mais l'idée, c'était que chacun puisse cultiver un levain. Et là, ça s'est fait au profit soit des petits, soit des gros, souvent de façon mélangée. Alors, un cas un peu différent, c'est celui de la France, où justement on a commencé ça pendant la Révolution, et puis brutalement, en 1800, le consulat Napoléon a interrompu complètement le processus par souci de concorde sociale. C'était vraiment là, une volonté politique, donc on n'a plus touché aux communaux à partir de 1800. Enfin, mon troisième exemple, ce sera l'Espagne. L'Espagne avait d'énormes biens collectifs. Certains étaient les propriétés de la commune, c'était les propios ou les montes concejiles, ou alors d'autres étaient propriétés de l'État, ce qui représentait un quart du territoire espagnol encore en 1850. Et à cause de difficultés financières, eh bien, l'État a décidé, et aussi d'idéologie, mais l'État a fait vendre toutes ses propriétés. C'est la loi de 1855 sur le désamortissement, ou ce que les Espagnols appellent la désamortisation. Alors, au profit de qui ? Il y a là encore très varié, à la fois des classes urbaines et des paysans. Dernier élément, parce que je crois qu'il ne faut vraiment pas l'abandonner, ce sont les forêts. Énormément de forêts étaient propriétés des communautés, et en général, il y a eu là intervention autoritaire de l'État, que ce soit en Italie, en Espagne, en France. L'État a mis la main soit sur la propriété, soit, c'est le cas de la France pour le code forestier, sur la gestion des terres. Donc vous voyez, je retiendrai deux choses de cela, la diversité des situations, mais de toute façon, partout, il y a eu attaque contre les propriétés collectives, et surtout un processus très long. Il a commencé dès 1750 et même avant en Grande-Bretagne, et il s'est prolongé jusqu'au début du XXe siècle en Espagne.
Merci beaucoup.